La veine Armand, une histoire de famille, une histoire de territoire. Épisode 1, l'avènement du tourisme au pays des Causses. Si de nos jours les gorges du Tarn accueillent chaque année près d'un million de touristes, au début du XIXe siècle, la Lozère était décrite comme un pays maudit du ciel, évité par les hommes civilisés. Cette idée fausse avait si bien pris racine dans l'opinion publique que géographes et touristes ignoraient les uns comme les autres ce pays. Mais à la fin du XIXe siècle, il n'y avait rien d'exagéré à dire que la région des Causses était à visiter et possédait une des sept merveilles naturelles de France. Que s'est-il passé durant ce siècle qui changea du tout au tout l'image de la Lozère? Comment et pourquoi les touristes sont petit à petit venus au pays des Causses? C'est ce que nous allons tenter de comprendre et de raconter.
Il y avait une longue tradition de villégiature. C'est les familles de la bourgeoisie, de Marseille, de Montpellier, de Nîmes, qui venaient souvent passer l'été dans leurs propriétés qu'ils avaient là-haut, et ils amenaient des amis et leur faisaient découvrir la région. Donc on peut dire que les prémices du tourisme chez nous, c'est les années 1850.
Philippe Chambon, historien, membre du Club Cévenol, ancien responsable tourisme, culture et patrimoine à la communauté de communes de la Jonte, natif de Méruéis.
Le must des touristes, c'était d'aller voir le lever du soleil à l'Aigoual. Donc ils partaient la veille, ils bivouaquaient où ils dormaient. Il y avait une auberge à l'Espérou, donc ils dormaient comme ils pouvaient à l'auberge de l'Espérou, qui était très rustique, pour voir le lever du soleil.
Au début du 19e siècle apparaissent en effet des visiteurs, je dirais, d'un nouveau style, qui voyagent non plus pour les nécessités du commerce, mais également pour le plaisir. Pour le plaisir de découvrir des lieux qui les éloignent en quelque sorte de leur univers quotidien, des lieux curieux. C'est la grande époque aussi des cabinets de curiosité.
Jean-Luc Bognol, professeur émérite d'anthropologie à l'université d'Aix-Marseille, natif de Millau.
Donc des lieux qui, en quelque sorte, les fascinent par leur étrangeté. Et ces visiteurs, ils commencent à se référer à certains textes. Alors un texte qui est justement très révélateur de cela, c'est le voyage en Languedoc du baron Taylor et de Charles de Naudier, où déjà toute une série de lieux qui ensuite vont devenir célèbres, notamment dans les gorges du Tarn, sont décrits de manière, je dirais, assez positive.
Entre 1820 et 1878, le baron Isidore Taylor, assisté de Charles Naudier et Alphonse de Cailleux, réalise 20 volumes de voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France. Des lithographies y représentent monuments, paysages et scènes de la vie quotidienne de la France de l'époque. Et en 1834, le cinquième volume de voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France explore le Languedoc et consacre 7 belles planches aux gorges du Tarn. Ce travail en partie disparu a ouvert la voie d'un changement de regard dans le champ de la conscience collective nationale.
Alors ces visiteurs, que j'appellerais visiteurs éclairés, vont ensuite être prolongés par des visiteurs qui, eux, vont appliquer à ces espaces une vision, je dirais, plus savante, pour essayer de les expliquer, pour essayer d'en rendre compte. Des géographes, des naturalistes. Alors parmi ces géographes, on peut citer le nom de Alphonse Lecoeutre, qui a été l'un des grands découvreurs des Pyrénées. Donc, en 1884, il commence à écrire sur l'Écosse, mais il est déjà assez âgé, et finalement, il se rend compte qu'il ne va pas pouvoir mener à bien cette tâche de révélation d'Écosse, et il confie cette tâche à un jeune qui lui semble plein d'avenir, Édouard Alfred Martel.
Édouard Alfred Martel découvre les gorges du Tarn en septembre 1883, lors d'une descente en barque. Il ne cessera de promouvoir la Lozère en narrant ses nombreuses explorations, en particulier celle d'Avène promis à un avenir brillant.
Et va, lui, véritablement mettre en publicité, en quelque sorte, ces espaces en sortant un ouvrage qui va, je dirais, avoir un certain succès, Les Cévennes, et la région d'Écosse, ouvrage paru en 1889.
L'œuvre de Martel compte plus de 1000 publications, parmi lesquelles Les Cévennes, dédiées aux Lozériens, pour que l'ouvrage fît quelque bien à leur beau département méconnu, déclare-t-il. Tandis que M. Lequeutre écrit en 1890 « J'ai visité à plusieurs reprises les clus de l'Aude, les canyons calcaires des Pyrénées, et je n'ai rien vu de plus réellement beau que les gorges du Tarn. J'avoue ne pas comprendre comment ce défilé n'a pas une réputation européenne. »
L'arrivée donc de Martel et de ses compagnons, qui eux alors vont se lancer vraiment dans une exploration scientifique avec des relevés topographiques, des photos, et aussi un souci de divulgation. En fait, la France découvre la région des Grands Causses, qui jusqu'alors était restée tout à fait confidentielle, parce que enclavée, parce que isolée. C'est avec l'arrivée de Lequeutre et de Martel que les choses vont devenir véritablement du tourisme. L'industrie traditionnelle de la laine, de la chapellerie est en complète déshérence, et heureusement que le tourisme est arrivé. Et, on peut dire que Martel et ses collègues ont sauvé le pays d'une désertification totale par la création de l'activité touristique.
Et cette mise en tourisme, elle se fait essentiellement dans les dernières années du XIXe siècle.
L'arrivée croissante de touristes nécessite quelques aménagements afin de rendre plus facilement accessible la région et ses nombreux sites remarquables. Jean Monestier, alors ministre lozérien, accède à la fonction de ministre des Travaux publics en 1889 et œuvre au désenclavement de la Lozère par les routes et le chemin de fer. À la fin du XIXe siècle, de grandes sociétés privées se partagent le réseau et c'est la Compagnie des chemins de fer du Midi qui ouvre les voies ferrées au pays et délivre même des billets de voyage, combinant des places en chemin de fer et en voiture à cheval.
L'inauguration de la ligne Vigny-Autourne-Mire-le-Vigan.
Paul Finiel, ancien vice-président du club Cévenol, ancien dirigeant du syndicat d'initiative de Millau, auteur de l'émergence et l'essor du tourisme dans le pays des Causses.
De la ligne Millau-Sévara-Grodès et ouverture de la ligne Béziers-Millau. En 1888, la ligne du Grand Central français Paris-Béziers devenu l'Aubrac en 1888.
Les gorges du Tarn sont également mises en lumière et en page en 1890 par les guides Joanne, collection de références de guides de voyage publiée chez Hachette, puis par le guide Michelin à partir de 1900.
Donc, arrivée de voyageurs qui devaient ensuite emprunter bien sûr des moyens de transport locaux pour se rendre sur les sites, qui descendaient les gorges du Tarn en barque, avec une volonté de la part des pouvoirs locaux, bien sûr, de profiter de cette nouvelle manne, de cette nouvelle manne touristique.
Tandis que sur place, aménagement et structures d'accueil s'organisent, portés par la prise de conscience que le tourisme pouvait améliorer la vie des habitants.
L'ouverture de la grotte d'Argilan pour les visites publiques en 1890, à mon sens, c'est une date quand même très importante. La première année, là, en 1891, la grotte d'Argilan a accueilli quand même plus de 120 visiteurs dans l'été. Quelques années après, l'abîme de Bramabio, en même temps, le site de Montpellier-le-Vieux qui commence à être bien identifié et balisé. Un peu plus tard, la découverte de la Vénarma en 1897, ça fait que les touristes sont venus résider. Les quelques auberges qu'il y avait sur Merveille sont devenues de véritables hôtels avec le confort, avec des noms aussi très à la mode. Le Grand Hôtel d'Europe, le Grand Hôtel de France, l'Hôtel Family, à l'époque on était très anglophone. Donc, et on a même, pour la clientèle fortunée, à cette époque-là, le Château d'Air, qui a été racheté par un ancien cafetier de Merveilles et qui l'a transformé en hôtel.
La venue des voyageurs, la célébrité montante de la région, l'intérêt des clubs d'explorateurs pour le pays ne laissent pas indifférente la population locale et favorisent, au-delà du développement touristique du territoire, la rencontre de différents milieux.
Alors ce qu'il faut souligner, c'est qu'à partir, disons, d'une certaine époque, on peut dater cela de la fin du XIXe siècle, les habitants eux-mêmes vont commencer à s'approprier ces nouveaux regards qui émanaient bien sûr de l'extérieur, mais qui vont faire sien. Il va se créer toute une série d'organisations locales qui vont être dédiées à la découverte justement de ces espaces par les habitants du lieu. Alors le Club Alpin Français organise une antenne locale assez vite, en 1885 me semble-t-il, à Millau.
Les sociétés savantes vont jouer un rôle important dans le développement du tourisme au pays des Causses. Le club alpin français, représentant le monde scientifique, politique et militaire majoritairement parisien, se livre à une importante propagande pour un essor touristique dans les Causses. La section Lozère et Causses du club alpin français est ainsi créée. Édouard Alfred Martel en sera le délégué. Le club a mené les tracés des sentiers, les poses de câbles, de rampes et de tables d'orientation, des aménagements qui ont profité aux membres du club, mais aussi aux habitants du pays et aux touristes de toute catégorie et de toute nation.
Et puis surtout, en 1894, est créé à Florac le club Sevenol. Le club Sevenol sous la houlette du pasteur Arnal. Et le pasteur Arnal veut créer cette société, en quelque sorte, de cette association Club Sevenol, pour accrocher les Cévennes à la prospérité montante des Causses. Il compte beaucoup, justement, sur l'attrait touristique que peuvent avoir les cavités souterraines. Et le Club Sevenol est d'abord, au premier chef, une association de spéléologie.
Le club alpin français contribuera à l'essor du Club Sevenol qui s'en inspirera.
Alors, le Club Sevenol.
Les statuts du Club Sevenol, tels que publiés en 1894.
Recueillir, centraliser les renseignements sur les curiosités de la région, explorer les grottes et les avennes encore inconnues, publier le résultat de ses recherches et attirer l'attention des compagnies de chemin de fer et des agences de voyage sur les sites merveilleux des Cévennes et des Causses. Donc, il y a eu dans l'évolution du Club Sevenol, si vous voulez, au début, c'était des pionniers, puis il y a eu des aménageurs, et puis après est arrivée l'ère des universitaires.
Alors au départ, c'était essentiellement des notables, des gens aisés qui venaient, mais ces associations étaient ouvertes, largement ouvertes. Par exemple, la Société des touristes Sevenol de Merveilles, qui se crée en 1895, était ouverte à vraiment tout le monde, même si le président c'était le châtelain du château d'Air, enfin voilà. Et alors, chose aussi assez extraordinaire pour l'époque, c'est écrit dans les statuts, les dames peuvent faire partie de la société. Là où ça a été bien, c'est qu'ils ont su se lier d'amitié souvent avec les notables locaux, et ça a permis au pays d'avancer. Un simple exemple, Martel était très ami avec M. de Nongaré et M. de Lapierre, qui était maire de Merveilles à l'époque, en 1890. Et très vite, de la Pierre a compris que si on voulait que profiter de tout ce que Martel avait mis à lumière, il fallait que le pays s'adapte. Oui. Résultat des courses, la plupart des maisons de Merveilles ont eu l'éclairage électrique en 1902, l'eau courante en 1908. Les vieilles auberges qui dataient du temps des grandes foires sont devenues des vrais hôtels, et l'Hôtel de France, par exemple, en 1902, avait le chauffage central, une salle de bain avec eau chaude à volonté à chaque étage, et un service de voiture pour les excursions au Mont-Aigoual.
À l'initiative du Club Sevenol, la route des Gorges du Tarn est construite entre 1900 et 1907 et ouverte à la circulation automobile. Le Touring Club de France, première association de tourisme en France, finance de son côté l'aménagement de certains sites pour les rendre accessibles aux touristes. C'est le cas du rocher de Capluc, du Pas de Souci, des tables d'orientation comme sur l'observatoire de l'Aigoual.
Toute cette génération d'explorateurs, ils arrivent au moment où on passe en fait de la structure sociale vraiment classique héritée de l'Ancien Régime à la société moderne. Auparavant, le sport, c'était un mot inconnu. Hein. Par exemple, le château d'Air à Merveilles, qui devient un hôtel à cette époque-là, un hôtel de classe, fait construire un cours de tennis. Un cours de tennis dans les années 1900 au fin fond des Cévennes. Les gens de Merveilles, sous l'impulsion de Martel, ont pensé à créer une société identique à celle au Club Sevenol, qui s'appelait la Société des touristes Sevenol, et qui s'est mis à faire aussi de la promotion. Ils ont édité le premier livret de promotion touristique en 1896. Mais disons que ça, on peut dire, c'est l'origine de l'Office du tourisme du syndicat d'initiative de Merveilles. Et parallèlement aussi, on a d'autres personnes qui sont installées, entre autres, par exemple, mon arrière-grand-père qui est arrivé à Merveilles en 1905 et qui était mécanicien, et qui a ouvert le premier garage Ils vendaient des véhicules de la marque Zèbre en même temps que des voitures, des machines agricoles. Et ils faisaient le taxi, ils allaient amener les touristes, ils faisaient les premières excursions. Et c'est aussi une période où le village est vraiment entré dans la modernité. Encore lui-même, mon arrière-grand-père, il a créé en 1906 le premier cinéma du village.
Donc, toute une série d'éléments qui vont faire en sorte que le tourisme va devenir quand même une activité importante, se crée en particulier une société qui est la société de la Veine Armand, qui va assurer donc l'exploitation de la Veine.
La Veine Armand, découverte en 1897.
Vincent Besson, président actuel de la société à Veine Armand.
Pendant 30 ans, il ne se passe pas grand-chose. Quelques visiteurs qui descendent avec des moyens très rudimentaires au bout d'une ficelle.
Le pasteur Paul Arnal, l'explorateur Édouard Alfred Martel et Louis Armand, serrurier forgeron lozérien devenu l'un des plus grands spéléologues, s'entendent pour explorer les avennes du Causse-Méjean, dont la Veine Armand. Dès la découverte de la Veine Armand, des articles sont publiés dans le bulletin du club Sévenol, notamment pour demander son aménagement et une route d'accès. La première visite touristique eut lieu dans le cadre d'une excursion du club Sévenol le 16 août 1899.
La société est créée en 1925. L'ouverture des travaux considérables sont faits en 1926. Ouverture au grand public en 1927. Notre société, on n'est pas la seule, a été à l'origine du développement touristique du territoire. Elle contribue toujours fortement à la vie touristique du territoire. Et donc, quand on dit vie touristique d'un territoire, ce n'est pas seulement les non-visiteurs, mais ce sont les hébergements, hôtels, campings, ce sont les sites de restauration, ce sont les boutiques, les épiceries, les magasins d'alimentation, etc. C'est tout un microcosme qui vit du tourisme. Le Causse-Méjean, c'est un truc incroyable. Ce territoire perché comme ça, à près de 1000 mètres d'altitude, entouré de gorges, avec des populations extrêmement dynamiques dans différents domaines, qui donnent des leçons d'entrepreneuriat, de courage, de volonté, de prise de risque.
La société à Veine Armand fête cette année son centenaire et perdure à valoriser les sites remarquables que sont la Veine Armand et la Cité de Pierre, en lien avec les acteurs touristiques du territoire et les habitants des Causses. Avec eux, au fil du temps, évolue le secteur touristique.
On peut dire que la grosse charnière, c'est les congés payés 1936, avec l'arrivée alors là des classes beaucoup plus populaires et une mutation. On passe d'un tourisme un peu élitiste à un tourisme beaucoup plus démocratique aussi. Avec l'arrivée donc de ce tourisme-là, on a aussi l'émergence, par exemple, de nouveaux lieux d'hébergement, les campings, les auberges de jeunesse, ça il ne faut pas l'oublier, aujourd'hui elles ont quasiment disparu, mais à l'époque dans la région il y en avait dans presque tous les villages. On a aussi les meublés, les fameux meublés de tourisme, et une évolution lente jusque dans les années, on va dire, 1970 à peu près, où là, peu à peu, une nouvelle clientèle émergeait, notamment une clientèle d'actifs, qui petit à petit vont faire basculer le tourisme dans les sports de pleine nature. Et on va dire qu'à cette période-là, on a un basculement d'un tourisme de contemplation et de découverte à un tourisme d'activité et de sport. Et ceci, en fait, c'est une évolution. La situation actuelle ne renie en rien le passé. C'est simplement une évolution. On contemple moins les paysages, mais on fait les paysages, on vit dans ces paysages-là.
C'était La Veine Armand, une histoire de famille, épisode 1, l'avènement du tourisme au pays des Causses.
Jusque dans les années 70-80, on venait voir les gorges du Tarn. Après, on vient faire les gorges du Tarn.
Prochain épisode, l'histoire de la découverte de La Veine Armand. Cette série de podcasts s'inscrit dans le cadre du programme HITS, Heritage Innovation Territory Tourism Sustainable, cofinancé par l'Europe au titre du FEDER dans le cadre de l'Interreg Sud-OE.